Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes d'accord? Il est béni le nom du Seigneur? C'est bien que vous ayez pris la décision de venir écouter la parole de Dieu. Le Seigneur, il veut vous bénir, mes frères et sœurs. Nous allons faire deux lectures. La première, s'il vous plaît, dans le psaume 9. Ce texte, ce psaume 9 m'a beaucoup bouleversé la fin de l'été. Au mois d'août, pendant mes congés, je lisais ce psaume et le verset 9 s'est éclairé. Je l'ai lu sans exagérer des centaines de fois. Les psaumes, je les ai tous lus des centaines de fois, c'est évident. Mais ce matin-là, en faisant mon culte, j'ai compris quelque chose. Psaume 9, verset 11. Et je vous encourage à le noter si cela peut vous aider. J'étudiais, je méditais, je lisais. Je ne sais pas si c'était le chrétien ou le pasteur qui lisait. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai lu ce verset, psaume 9, verset 11. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. » Le Seigneur m'a montré quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui connaissent ton nom, le nom dans la Bible, ça signifie toujours le caractère. Connaître le nom de Dieu, ça veut dire connaître le caractère de Dieu. Je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il est tout-puissant. Ça ne veut pas dire je connais le nom. Ah oui, moi je sais que Dieu, il s'appelle Dieu. Voilà, Dieu, il s'appelle El Shaddai. Dieu, il s'appelle, comment il s'appelle? Ah, conseiller. Qu'est-ce qu'on dit à Noël? Oui, on l'appellera Père éternel. Ceux qui connaissent le caractère de Dieu ne peuvent pas faire autrement que de se confier en lui. C'est exactement ça que ça veut dire. Ceux qui connaissent Dieu, ils ne peuvent pas faire autrement. Si vous ne vous confiez pas en Dieu, c'est que vous ne le connaissez pas. Vous savez qu'il existe, ça n'a rien à voir. Tout le monde croit en Dieu, plus ou moins. Les gens, ils vous diront, on ne croit pas en Dieu, mais ils pensent à son existence, ils pensent qu'il y a quelque chose. Ceux qui connaissent le caractère de Dieu ne peuvent pas faire autrement que de se confier en Dieu. Je commence par la conclusion en vérité. Voilà, on va faire une lecture dans le premier livre de Samuel. J'ai commencé par la conclusion presque volontairement. 1 Samuel chapitre 30, lisez cette histoire, cette épreuve qui est arrivée à David et comment il s'en est sorti. N'oubliez pas que ces choses ont été écrites pour notre instruction. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Je ne sais pas si vous réalisez. Ils avaient détruit et brûlé la ville où habitait David. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, je répète, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel, en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient restés en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, Les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu ?» Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kéréthiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi, par le nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David, et vous pouvez dire Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enseignement de cette histoire. L'aviez-vous déjà lu cette histoire? Oui, c'est une histoire extraordinaire qui va vous enseigner ou vous réenseigner ce qui se passe quand quelqu'un connaît Dieu et qu'il peut véritablement se confier à lui. Jésus a dit qu'à la fin des temps, ce que nous sommes en train de vivre, l'amour du plus grand nombre, aidez-moi, se refroidirait, que l'apostasie s'installerait de plus en plus dans le royaume de Dieu, l'abandon de la foi. Je ne parle pas l'abandon des lieux de culte, l'abandon des églises, je parle de l'abandon de la foi. Beaucoup de gens vont dans des églises, mais ils ont abandonné la foi. Que l'égoïsme envahirait les églises. C'est écrit ça ou c'est pas écrit? Qu'à la fin des temps, les gens seraient égoïstes. Il parle des chrétiens. Dans 2 Timothée, il parle des chrétiens, puisqu'il dit ils auront l'apparence de la piété. Donc, il parle des chrétiens qui seront arrogants, égoïstes, qui aimeront l'argent, le plaisir, plus que Dieu, etc. etc. L'apostasie envahit les églises. Hier, je souris, mais ça ne m'a pas fait rire du tout. Il y a une femme qui s'est convertie il y a 7 ans, qui est allée dans son église. Ils avaient enlevé toutes les chaises et ils faisaient un flash mob dans l'église. Vous savez ce que c'est un flash mob? Vous savez, c'est des danses là, où tout le monde danse là. Et la femme, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, Monsieur Gau, je vous écoute sur Internet, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est l'apostasie. C'est ça l'apostasie. On n'abandonne pas les églises, mais on fait n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Et il est certain, comme le disait notre cher bien-aimé Janson, qu'il faut absolument une chose dans les églises, que nous entendions Dieu nous parler et connaître sa pensée. La Bible dit, par exemple, Hébreux 3:13, un verset que nous devrions méditer de temps en temps, parce qu'il nous permet de comprendre quelle est notre vocation. Je vous le lis. « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, d'autant plus que l'on peut dire aujourd'hui. » Est-ce que vous entendez ?« Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Dans une église, la vocation des chrétiens, c'est de s'exhorter les uns les autres. Je serais très malheureux s'il n'y avait que le pasteur qui vous exhorte. Est-ce que vous exhortez les autres également? Est-ce que vous avez compris que ça fait partie de votre vocation? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Est-ce que vous aimez exhorter les autres? Regardez votre prochain à côté de vous. Est-ce que vous l'aimez exhorter? Regardez-le. La dame habillée en noir au fond, est-ce que vous aimez exhorter? Hein? Exhortez-vous les uns les autres. Vous savez, mes frères et sœurs, ça fait partie de notre vocation. Et nous devons être sérieux avec toutes les instructions. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Nous devrions nous faire un point d'honneur de nous exhorter nous-mêmes, de nous édifier nous-mêmes, c'est écrit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Monsieur Sinarinzi parlait des livres qui sont écrits. Est-ce que tout ce que nous lisons, est-ce que tout ce que vous entendez est filtré par la parole? Eh bien, c'est une instruction. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Exhortez-vous les uns les autres. Vous devriez énormément trouver du plaisir à faire du bien aux autres. Si vous êtes tout le temps en train de devoir être exhorté, il y a un problème. Il y a des moments où on est plus, moins, on est mieux, etc. Mais quand même, le chrétien devait vivre la majeure partie de sa vie à être un instrument de bénédiction pour les autres. C'est écrit, Colossiens 3:16, « Exhortez-vous les uns les autres ». 1 Thessaloniciens 5:11, « Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres ». Si vous lisez les actes, il est dit, les églises se fortifiaient dans la foi. Les chrétiens, quand ils se retrouvaient entre eux ou entre chrétiens d'autres églises, ils ne faisaient pas autre chose que de se fortifier, que de se faire du bien. Je crois qu'ils devaient faire certaines expériences et ces expériences faisaient qu'ils les partageaient avec d'autres. Est-ce que vous faites des expériences avec Dieu? Est-ce que vous voulez faire des nouvelles expériences avec Dieu qui correspondent bien sûr à sa volonté? Eh bien, j'espère que vous en êtes là, que vous êtes conscient de l'importance déjà de veiller les uns sur les autres. C'est ça l'Église. On prie en ce moment pour que dans l'Église il y ait des évêques. Les évêques, ce sont des surveillants, pas des gens qui surveillent, des gens qui veillent sur. On veille les uns sur les autres. Est-ce que vous venez dans l'Église un peu dans ce but aussi, d'être en bénédiction aux autres? Répondez-moi, sinon j'arrête ma prédication. Mais c'est important. Si vous ne recevez pas, vous ne pourrez pas donner. Ça, c'est évident. Mes frères et sœurs, on a tous des vies différentes. Mais on a tous des difficultés. On a tous eu des malaises. On a tous eu des épreuves. Tous des moments difficiles. Mais même dans ces moments, nous pouvons rendre un bon témoignage. Dans le livre des Nombres, il nous est dit qu'à un moment donné, le peuple perdit courage en chemin. Le peuple perdit courage en chemin, c'est Nombres 21, verset 4. Le peuple perdit courage. Oui, la vie est faite de situations, d'épreuves, de déceptions, de contrariétés, de fardeaux, de peines. C'est pas écrit, à chaque jour suffit sa peine. Bon, Jésus nous a prévenu. Il a dit, voilà, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, dans les tribulations, eh bien, ils se découragent. Ils arrêtent. Regardez avec moi dans Matthieu 13, 21. Voilà, on l'a lu, je crois, la semaine dernière, mais ça fait rien. Matthieu 13, 21, c'est pas nouveau, ça fait pitié, mais c'est la preuve que les gens n'ont pas compris comment surmonter le mal par le bien. Matthieu 13, 21, c'est la parabole du semeur et des terrains. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 21? C'est ceux qui ont reçu là. Ils l'entendent avec joie. Ils l'entendent avec joie, mais voilà. Verset 21, Matthieu 13. Il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps. Il croit pour un temps. Si vous saviez, moi, la peine que j'ai eue, je m'appelle, c'est quand je suis arrivé à Saint-Agne. Quand j'ai lu cette parole, il croit pour un temps. Si vous savez la peine que ça m'a fait, il y a des gens qui croient, mais ils ne croient pas pour jusqu'à la fin. Ils croient juste pour un temps. Et dès que survient une tribulation. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Voilà, il y a des gens, ils n'acceptent pas les épreuves. Et moi, je croyais que Dieu serait, qu'il ne me ferait pas passer par ce chemin. Ça m'a contrarié. J'avais prié Dieu pour qu'il me fasse passer par ce chemin. J'avais prié Dieu pour ne jamais être malade. Et voilà que je suis malade. Et ça ne me plaît pas. Je ne comprends pas. Voilà, une tribulation, une contrariété. Ah, on aurait souhaité que ça se passe comme ça. Ça s'est passé autrement. Enfin, je ne vais pas parler des tribulations. Mais voilà, le problème, c'est qu'ils y trouvent une occasion de chute. Et l'ennemi, laissez-moi vous dire, qui va faire feu de tout bois et de toutes nos faiblesses pour nous faire tomber. Car croyez-moi, la Bible parle de ses ruses, de ses méthodes. Il n'a qu'un but. Si la volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans l'abondance, la volonté du diable, c'est de nous faire tomber dans le découragement. Le diable, ça lui suffit. Parce que le découragement, c'est le prélude à la vie rétrograde. Montrez-moi quelqu'un de découragé, de quelqu'un de continuellement découragé. Moi, je vous dis que je vois un rétrograde. J'ai trop l'habitude, hélas, je le sais. C'est comme ça, c'est un cas de figure. C'est les symptômes d'une vie rétrograde. Et le diable, il le sait. S'il peut avoir quelqu'un par le découragement, il le fera. C'est un voleur. Et lorsqu'il arrive à voler la grâce, la paix, la joie, il ne faut pas s'attendre à ce que nous soyons pleins de courage. Il est comme ça, le diable. C'est un voleur. Jésus l'a catalogué comme étant un voleur. Un voleur, il vole, il dérobe tout ce qui vous appartient. J'en parlais l'autre jour, il y a des gens qui sont rentrés dans leur maison après leurs vacances, ils n'ont rien trouvé dans leur maison. Il y a des gens, ils sont rentrés, on leur a volé la télé, l'ordi, un bijou ici, un bijou là. On a entendu des témoignages de gens qui sont rentrés dans leur maison après les congés, il n'y avait rien. Et le diable a ce pouvoir lorsqu'on ne veille pas de tout nous voler. Et je crois que nous devons être sérieux, comme ça s'est passé pour David, on lui avait tout pris et tout brûlé. Oui, c'est un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Avez-vous la foi? Avez-vous de l'assurance? Avez-vous de l'espérance? Avez-vous du zèle? Avez-vous de la ferveur? La Bible en parle d'une manière beaucoup plus intense, puisque quand la Bible parle de ses vertus, elle parle d'une pleine assurance, d'une pleine paix, d'une pleine joie, d'une pleine espérance, etc. Toutes ces vertus sont liées à ce qualificatif d'être plein. Quand on est rempli, on peut être rempli de ces vertus. C'est ce que Dieu veut. Alors, l'ennemi, il sait comment faire. La Bible dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, c'est clair qu'il n'y verra rien. Lorsqu'il va être découragé, il ne va même pas s'en rendre compte. Il ne va pas le discerner. Et nous devrions être vigilants sur l'état de notre âme spirituelle. Il y a des gens, dès qu'ils ont un petit bobo, paf, c'est le docteur. Ils n'ont rien, juste un petit bobo. Allez, vite, vite, vite. Ils se soignent. Ils ont un petit mal de tête, vite, vite, un doliprane. Il y a des gens, ils veillent sur leur corps, c'est un truc de folie. Eh bien, s'ils faisaient pareil au niveau de leur âme, ça serait les chrétiens les plus spirituels de l'Église. C'est clair, c'est obligé. Si peu planter de l'amertume dans un cœur, est-ce que vous avez déjà été contrarié par quelqu'un? On va faire plus simple. Qui n'a jamais été contrarié? Levez la main. Qui n'a jamais été déçu par un ami? Il y a tous les cas de figure, on les traverse tous. Et le diable, il le fera. Il sait exactement quand est-ce qu'il doit faire quelque chose. On va voir deux textes dans la Bible. Regardez dans 2 Samuel. Regardez, c'est important. J'espère que vous lisez la Bible en la méditant. Si vous ne le faites pas, mettez-vous-y. Ne lisez pas la Bible pour lire la Bible. Vous pouvez la lire d'une manière mécanique pour connaître l'enseignement, mais en même temps, vous devez lire d'autres textes pour les méditer. C'est comme ça que vous utiliserez le bouclier de la foi. Dans 2 Samuel au chapitre 17. 2 Samuel, chapitre 17. Regardez, verset 1 et verset 2. Il avait compris. Il y en a qui ont compris, croyez-moi. 2 Samuel, chapitre 17. Achipotel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. » Voilà ce que le diable il veut. Il veut vous surprendre et il va attendre que vous soyez fatigué et que vos mains soient affaiblies. N'oubliez pas le nombre de fois où il est dit que de fortifier les mains languissantes, l'image de la prière, les mains levées, bien sûr que ce n'est pas parce qu'on lève les mains que nos mains sont fortifiées. Ça représente quelqu'un qui est tendu vers Dieu, son cœur est tendu vers Dieu, sa foi est continuellement tendue vers Dieu. Et la chipotelle, il est vicieux surtout. Il dit, tu sais comment on l'aura? Il faut attendre qu'il soit fatigué. Mais il n'y a pas qu'à chipotelle. Vous connaissez Jisbi Benod? Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? C'est un des frères ou des fils de Goliath. Regardez, dans 2 Samuel 21, ils n'avaient pas apprécié ce qui était arrivé à leur père, sûrement. Vous comprenez? Les Philistins. Parce que Goliath, il avait quelques amis quand même, voyez. Et regardez, Jisbi Benod, verset 16, vous y êtes? De Samuel 21, verset 16, vous y êtes? Bon, ce n'est pas comme ça que vous appellerez votre fils. Mais Jisbi Benod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Jisbi Benod, vous savez ce que ça veut dire? Il est patient. Il y en a un qui est patient, croyez-moi. Et vous avez vu ce qu'il a attendu? Il attendit un moment favorable. Verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Donc c'était les frères, ils sont cinq là. C'était les frères, c'est quatre, ils sont quatre. À vouloir faire la peau à David. Ils ont attendu que David soit fatigué. Et David n'a pas fait le beau. Il n'a pas dit, je sais, donnez-moi une offrande, je vais vous montrer. Il avait ses amis. Vous avez vu, regardez, on a vu le mauvais, au verset 17. Abishai, père de Tserugia, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Voyez, Abishai, ça veut dire père de la force. Bien sûr, c'est l'image de Dieu, mais c'est l'image d'un ami qui était à côté de lui. Vous avez vu combien nous devons nous exhorter les uns, les autres. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous croyez que David s'est culpabilisé toute la semaine en disant, ouais, quand même, j'avais tué Goliath, j'aurais pu faire de même ce jour-là. Il était fatigué et ils ont attendu. Et le diable, il est patient. C'est pour ça que nous devons toujours être entourés d'amis. Mon frère, M. Pies, me disait avant la réunion, on a besoin d'une église. Mais c'est clair qu'on a besoin d'une église. Déjà pour entendre la pensée de Dieu, pour se rencontrer les uns les autres, pour veiller les uns sur les autres. Et vous lisez les quatre frères de David, ou les quatre fils de Goliath plutôt, vous avez vu, chacun a une particularité. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan qui veut nous détruire et voler notre foi, nous faire tomber dans le découragement. Si l'ennemi connaît nos faiblesses, et il faut y veiller. Si quelqu'un peut être craintif, eh bien, il va essayer de vous amener sur le terrain de la crainte. Quelqu'un peut être, voyez, timide, alors il va chercher à vous isoler des autres et à vous faire priver de la beauté de la communion fraternelle. Et si vous êtes timide, vous devez prendre vos devants, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui nous rend timide. Nous devons prendre les victoires. Dans le monde, c'était normal, on était assujettis à notre caractère, à nos sentiments, à nos émotions. Mais à partir du moment où on est chrétien, ce ne sont pas nos émotions qui nous dirigent, c'est la parole de Dieu qui nous commande. Et si nous avons une faiblesse, eh bien demandez, demandez. L'ennemi va vous amener sur le terrain. Sur le terrain qui va vous perdre. Et vous devez quand même savoir quelles sont peut-être vos faiblesses, vos manquements. Un sportif de haut niveau, eh bien, il va muscler certains muscles de son corps pour être plus performant. Ça, c'est évident. Dans le monde, les gens le font. Et nous, les chrétiens, nous n'aurions pas cette intelligence de fortifier la partie de notre vie qui a besoin de l'être. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui peut tout nous donner. Est-ce que Dieu peut tout nous donner ? Ou tout nous redonner. Alors veillons, n'écoutons pas juste une prédication en disant « Oui, c'était intéressant, c'était construit, et tatati, et tatata. » Non, je dois veiller à apprendre à connaître Dieu. Rappelez-vous l'introduction qui sera la conclusion. « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Et je répète, si vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux, si vous ne vous confiez pas en Dieu, c'est que vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas plus compliqué. Si vous connaissez Dieu, vous savez qu'il ne vous fera pas défaut. C'est pour ça que moi je me rappelle ce matin où Dieu m'a révélé cette vérité. Ceux qui te connaissent se confient en toi. Et il faut faire attention. Rappelez-vous les 10 responsables, c'était 10 pasteurs, 10 chefs qui avaient été envoyés par Moïse inspecter le pays de Canaan. Et ils étaient 12, mais à 10, ils ont découragé toute une nation. À 10, c'est sûr que quand un leader est découragé, c'est beaucoup plus rapide. Ça c'est clair. Et c'est pour ça, si vous avez une responsabilité, ou si vous avez un jour une responsabilité dans l'église, veillez-y à ça. Parce que quand un chrétien est découragé, il en décourage 2 ou 3. Mais quand un responsable est découragé, il peut décourager tout le monde. C'est pour ça que vous devez prier pour les pasteurs, pour qu'ils soient fortifiés. Ouais. Vous entendez? En tous les cas, ils ont découragé toute une nation. Vous pourrez le vérifier dans Nombre chapitre 13. Le découragement, c'est contagieux. Si vous avez lu les lois de la guerre en Israël, il est dit ceci. Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage, qu'il rentre chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Le Seigneur, il avait prévu le coup. Si un soldat était découragé, écoute, tu restes à la maison. C'est pas la peine que pendant tout le combat, tu nous décourages. Et dans l'Église, quand même, n'oublions pas que c'est une armée, que c'est un combat, et que nous devrions veiller à faire attention à nos paroles, à ne pas décourager. Ça va ? Ouais, bon, faut le faire aller, faut le faire aller. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quand même. Je crois quand même qu'on a la grâce de Dieu. Et je ne sais pas si vraiment on pense aux répercussions de nos paroles. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et dans le couple, dans la famille, nous devrions continuellement veiller à nos paroles, le poids des mots. Vous le savez qu'un petit feu peut embraser une forêt. Et nous devrions veiller à nous exhorter les uns les autres. Le découragement, c'est contagieux. Je vous dis, c'est le diagnostic d'une prochaine vie rétrograde, si nous n'y veillons pas. Quel est le témoignage que vous voulez donner, au fait? Parce que quand même, bon, on est là, je digresse un peu, mais sérieusement, au fait, quel est le témoignage que vous voulez donner aux gens autour de vous? Puisque Jésus a dit, vous serez mes témoins. On en déduit quand même des témoins positifs. Quel est le témoignage que vous voulez donner? Vous pouvez même me répondre. Aux autres, qu'est-ce que c'est qui est important? Répondez-moi. Quel est le témoignage que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, c'est quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Ah, ce frère, il a toujours fait une parole qui fait du bien. Il y a des gens comme ça. Vous discutez avec eux, vous savez que toujours ils vont vous dire du bien. Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, vous savez, ils vont se plaindre. Et je me rappelle de ce témoignage que j'ai lu, c'était un chrétien, des chrétiens dans une église, ils n'avaient jamais vu leur chrétien se plaindre, leur pasteur se plaindre. Jamais vu, jamais vu, jamais vu. Tout le temps, ils commençaient les réunions avec une parole d'encouragement, et un jour, il y a eu une tempête de neige. Il y avait un mètre de neige, personne ne pouvait venir aller au culte, ils ont dit, on va aller au culte. On va voir le pasteur, je suis sûr que ce matin, il va se plaindre. Et ils sont allés à l'église, il n'y avait pas grand monde à l'église, et le pasteur, il est monté à la chaire, et il a dit, « Merci Seigneur, car c'est rare qu'il y ait un dimanche comme ça. » Et ils ont compris que vraiment, on pouvait tout le temps surmonter le mal par le bien. Quel témoignage voulons-nous donner? Dieu avait dit à Abraham, « Tu seras une source de... » bénédiction. Mes frères et sœurs, veillons à être des sources de bénédiction. On a vu cette histoire de David. Vous vous rendez compte? Il a, c'est certainement, d'après moi, mis à part l'année difficile qu'il a connue après l'adultère avec Bathsheba, c'est certainement l'épreuve la plus difficile qu'il a connue dans sa vie. Il revient d'une expédition. Qu'est-ce qu'il voit? Sa ville brûlée. Et toute sa famille a été kidnappée. Imaginez-vous, vous rentrez ce soir à la maison, il n'y a plus de maison. La maison est brûlée, il n'y a plus personne. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas de mort, donc vous en déduisez qu'ils ont été enlevés. En plus, ils étaient 400, et 600 ils étaient, avec tous les hommes. Ils ont pleuré le temps qu'ils avaient besoin de pleurer. Et puis, quand ils ont fini de pleurer, bien sûr, il fallait un coupable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ouais, c'est la faute à David et tout. Et ils ont en plus parlé de le lapider. Non seulement il avait la douleur, je comprends pourquoi il a dit qu'il fut dans une grande angoisse. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cette histoire, elle est là ce soir pour nous servir d'exemple. Vous y êtes dans cette histoire? Est-ce que vous y êtes? 1 Samuel chapitre 30, si vous avez perdu le texte, verset 6. Revenez avec moi sur la lecture. David fut dans une grande angoisse. Il n'a pas été stressé 5 minutes. Il est écrit qu'il a été dans une grande angoisse. Comme j'ai l'habitude de le dire, s'il nous est dit que c'était une grande angoisse, c'est que c'était une grande angoisse. Ça vous fait peut-être sourire, mais ça a été une expérience qu'il a vraiment vécue. Il a été énormément angoissé. Le peuple parlait de le lapider car tous avaient de l'amertume. La fin du verset 6 est la clé de la prédication de ce soir. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Mais David, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, mais lui n'a pas réagi comme les autres. C'était des hommes qui étaient avec lui, c'était des guerriers, ils avaient tous à peu près le même profil, ils devaient tous à peu près se ressembler, mais David, lui, n'a pas réagi comme les autres. C'est ça que ça veut dire. Mais David reprit courage. Ce n'est pas parce qu'on connaît un moment d'angoisse, d'épreuve, de frustration, de malheur. Ce n'est pas pour ça qu'on doit dire, voilà, il y en a marre, il y en a ça. Non, quelqu'un qui connaît Dieu, il va réagir. C'est ça que ça veut dire. Mais David reprit courage. Mais David connaissait Dieu. Il le connaissait. Quand le peuple d'Israël chantait « Tu es le berger d'Israël », parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, lui, il disait « L'Éternel est mon berger ». C'est une chose, vous savez, de dire « Oui, Jésus, c'est le bon berger ». Est-ce que c'est Jésus le bon berger? Jésus est le bon berger de l'Église, le souverain berger, etc., B majuscule. C'est une chose de dire « Jésus est le bon berger », ça n'est une autre de dire « Il est mon berger ». Vous comprenez la différence? Et David a réagi différemment des autres parce que David connaissait Dieu. Ça n'a pas empêché qu'il ait été dans une grande angoisse parce qu'une épreuve, il faut quand même la digérer. On n'est pas des robots. Et dès qu'il y a une épreuve, on peut avoir la boule au ventre, on peut avoir la contrariété. Mais quel temps allons-nous lui donner à cette épreuve? Combien de temps allons-nous réagir? La Bible est catégorique, ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. David reprit courage. Ce soir, même auriez-vous beaucoup de courage, mais vous pouvez demander à Dieu qu'il vous en donne davantage. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas parce que tout va bien que moi, vous savez, je pense qu'on peut dire, Seigneur, donne-moi du courage. Ça va bien, mais Seigneur, donne-moi du courage. J'ai reçu un peu de sagesse de ta part. Seigneur, donne-moi encore de ta sagesse, afin que je sache gérer les situations. Prenez courage. Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations, prenez. Ce verbe, je l'ai répété je ne sais combien de fois, ce verbe actif nous indique qu'il y a un effort à faire. Quand vous vous mettez en prière, c'est un acte de foi. De la même manière que vous prenez un verre pour boire, vous le saisissez avec la main physique, et bien par un acte de foi, avec la main de la foi, vous saisissez ces vertus dont nous avons tant besoin. Prenez toutes les armes de Dieu. Le matin, je ne sais pas comment vous faites, mais moi le matin, je m'arme de toutes les armes de Dieu, parce que Dieu nous le demande. La vérité pour ceinture, la vérité qui va ceindre vos reins, c'est-à-dire votre force intérieure. La vérité, vous avez une épreuve, paf. Eh bien Seigneur, non, moi je surmonte le mal par le bien, merci Seigneur. Et c'est réglé. Et Dieu le voit. C'est pour ça que Dieu dit qu'il bénit ceux qui se confient en lui. Prenez par-dessus toutes les armes, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. David s'est appuyé sur Dieu. Il a reçu une parole de Dieu. Vous êtes toujours dans le texte? David fait appeler le sacrificateur. Verset 8, David consulte l'Éternel et il pose une question. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Est-ce que vous avez besoin d'une parole de Dieu? Est-ce que ce soir, vous avez besoin d'une parole de Dieu? Et comment vous avez chanté, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger? Janson nous l'a fait chanter avec affirmation, parce que c'est exactement ça que Dieu veut, que nous disions les choses avec affirmation, à cause de la grâce. Quand David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait grâce. Il a cette conviction parce qu'il connaît Dieu. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, eh bien, il aurait dû écrire, ben non, 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 le bonheur et la grâce ne m'accompagneront pas. Il aurait été. Mais quand vous connaissez la grâce de Dieu, vous pouvez dire, oui, oui, je poursuivrai. Il avait besoin d'une parole de Dieu, Dieu la lui a donnée. Il a pas réagi comme les autres étaient toujours certainement découragés, mais David, dans son coin, était en train de recevoir une parole de Dieu. Est-ce que vous aimez vous retrouver tout seul dans votre coin pour recevoir une parole de Dieu? Poursuis, tu atteindras, poursuis, tu délivreras. Et en même temps, c'était bien parce qu'il recevait la bénédiction pour lui et pour tous les autres. Et quand vous recevez une parole de Dieu, en principe, ça bénit les autres. Et quand vous prenez l'habitude tous les matins de prendre suffisamment de temps, cela nous a été rappelé dimanche par M. Bordeneuve, de chercher Dieu, de ne pas chercher la bénédiction, de chercher Dieu, vous recevez une parole. Et toute la journée, cette parole vous sert d'appui pour surmonter le mal par le bien. Avez-vous besoin d'une parole de Dieu ? Mais restez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous parle. Je vous dis cet été pendant les vacances, quand Dieu m'a montré ce verset du psaume, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi », mais toute la journée, je planais littéralement, parce que ça m'a donné une dizaine de sujets à préparer sur le nom du Seigneur. Il connaissait Dieu, il a été angoissé, une grande angoisse, c'est grave les angoisses. Si vous avez déjà eu des angoisses, vous savez qu'on ne rit pas avec les angoisses. Que c'est quelque chose de profondément frustrant, de profondément perturbant. Il l'a vécu, et pas une seule fois, David. Les angoisses, il connaissait. Mais il connaissait surtout Dieu. Et il a reçu une parole de Dieu. Mais quelle est la parole dont vous avez besoin ? Franchement, mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez que Dieu veut vous parler ? Ou alors est-ce qu'on chante pour chanter ? Si je me tais, j'apprendrai à écouter. Mais ce verset 11 du psaume 9, vous devriez le méditer jusqu'à ce que vous appreniez à comprendre que le nom du Seigneur nous parle de tous ses attributs. Vous croyez que Dieu va vous faire défaut ? Mes frères et sœurs, poursuis. Voilà peut-être le mot que vous avez aussi besoin d'entendre ce soir. Après tout, pourquoi ce ne serait pas la même parole pour vous ? Poursuis, tu atteindras. Vous entendez ? Les jeunes, les moins jeunes. C'est peut-être vraiment la parole du Saint-Esprit ce soir. Poursuis, mon frère. Poursuis, tu seras délivré. Poursuis, tu as tout perdu comme lui. Peut-être que tu as perdu qu'une lampe à chevet. Mais mes frères et sœurs, lui, il avait tout perdu. Et non seulement, il a tout ramené, verset 19. Les trois derniers mots du verset 19, moi je les ai soulignés, parce que ça me plaît. David ramena tout. Et non seulement tout, mais il ramena un butin considérable. Non seulement, vous voyez, il a tout ramené, mais en plus, un butin supplémentaire, un surplus. C'est pas bien ? Moi, ça me plaît, ça. Ouais. Poursuis, tu atteindras. Ne vous relâchez pas, je vous l'ai dit. Je l'ai dit vite fait, mais le découragement prépare une vie rétrograde. Et il y en a un qui l'a très bien compris. Alors, ne perdez pas. Tout à l'heure, je m'appliquais à lire, j'ai une concordance. Vous allez, avec Internet, vous tapez concordance biblique, vous tapez le mot confiance, le mot se confier, le verbe se confier, et vous verrez tous les textes qui vont défiler. Mais David, il a saisi, c'est quoi la foi ? Il a saisi l'omnipotence de Dieu. Souvent, on chante des cantiques, et je fais attention à la façon dont les meneurs de chant dirigent la louange, etc. Je le fais pour bien comprendre les choses. Mais des fois, on a par exemple deux ou trois chants sur l'omnipotence de Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Et à la fin, quand je discute avec les chrétiens, parfois, ils n'ont pas compris que Dieu était le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, ça veut dire que Dieu peut tout. Donc, il sait tout. Et la foi saisit l'omnipotence de Dieu, la foi saisit la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le secours de Dieu, la paix de Dieu. Vous pouvez perdre la paix. Vous pouvez la perdre. Qui n'a pas déjà perdu la paix en tant que chrétien ? On la perd des fois. Eh bien, poursuivez-la. C'est écrit « poursuivez la paix ». Est-ce que c'est écrit dans la Bible « poursuivez la paix » ? « Recherchez la paix », est-ce que c'est écrit ? Ben, ça veut tout dire. Ça peut dire qu'on peut la perdre. Eh bien, recherchez-la, poursuivez-la, vous atteindrez. La foi, c'est prendre. La foi, c'est pas croire en Dieu. C'est pas croire en Dieu, la foi. C'est trop facile. La foi, c'est s'approprier les choses de Dieu. C'est prendre les choses de Dieu. Paul et Silas dans la prison. Vous vous rappelez Paul et Silas, puis là, frappé, maltraité, attaché, dans une prison intérieure, pas de fenêtre, rien. Ils sont là, pas de lumière, rien, blessés. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent des cantiques. Ils n'envoient pas un fax à l'action missionnaire ou un texto, on arrête, il y en a assez. Ils chantent des cantiques. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Mais ils connaissent Dieu. Ce n'est pas de l'autosuggestion, comme ce livre qui est sorti, La puissance de la louange, qui est un mauvais livre. Il paraît très, 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 très bon, mais je peux vous dire que c'est un mauvais livre, parce qu'en fin de compte, c'est de l'autosuggestion et ce n'est pas de la confiance. Dieu va me bénir, Dieu va me bénir, bénis-moi, le Seigneur va me bénir, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Écoutez-moi, quand vous connaissez Dieu, vous savez qu'il agira. Vous le savez. Et Paul et Silas, dans la prison, ils chantent. Ça doit plaire à Dieu, puisque moi je trouve la suite, nous montre que c'est très intéressant. Est-ce que vous voulez une foi qui plaise à Dieu? Faites-lui confiance. David ramena tout. Il y a des choses que Dieu veut vous donner. Dieu, elles appartiennent à Dieu. Elles sont pour vous. Dieu, il n'a pas fait des promesses pour nous faire rêver. Dieu, il a fait des promesses pour qu'on les saisisse, pour qu'on les prenne. Et combien je voudrais que vous saisissiez que par la foi, la grâce ne pourra pas se retirer. Quand Dieu parle de David, il a dit ceci, « Ma grâce ne se retirera point de lui. » Pourtant, il y a eu vraiment des problèmes. David, il a fait quelque chose, plusieurs trucs qui ne sont pas bien du tout. Mais la grâce de Dieu ne s'est jamais retirée de lui parce qu'il avait confiance en Dieu et qu'il saisissait ce dont il avait besoin. Quand il a eu besoin de pardon, Dieu le lui a donné parce qu'il sait que Dieu pardonne et que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si vous doutez du pardon de Dieu, eh bien c'est que vous ne le connaissez pas. Parce que Dieu pardonne. Vous entendez mes frères et sœurs? Et quand Dieu pardonne, il pardonne. Nous, on est là, souvent, on pardonne, on ne sait pas. Oui, imaginez-vous quelqu'un, je ne sais pas à qui. Imaginez-vous, je vous ai blessé, je vous ai demandé pardon, vous me pardonnez, monsieur Gros, je vous pardonne, ce n'est pas grave et tout. Et imaginez que tous les trois matins, je vienne vous voir et que je vous dise, frère, je viens vous demander pardon. Mais pourquoi? Mais vous savez, mais ça y est, c'est pardonné. Ah, merci. Et que trois jours après, frère, je viens vous demander pardon. Est-ce que vous vraiment vous voulez me pardonner? Le frère me dit, mais monsieur Gou, ça y est, ça fait 3 mois. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez de ce frère? Qu'est-ce que vous diriez de moi? Vous diriez, mais il ne croit pas au pardon. Il ne croit pas au pardon. Mes frères et sœurs, quand Dieu pardonne, il pardonne. Vous entendez? Et les gens qui ne connaissent pas Dieu le prouve par ce genre de comportement. Il demande pardon à Dieu et tous les trois matins, il recommence. C'est que vous ne connaissez pas Dieu. Moi, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je ne veux pas surtout que vous perdiez de temps. Si vous connaissez Dieu, vous le savez, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alors, je vous lis quelques versets. Faites-le chez vous. Je vous les lis comme ça, dans l'ordre où je les ai lus dans la parole de Dieu, en terminant ma prédication. Je vous donne les références en même temps. Ça vous permettra de les écrire peut-être sur un papier et de commencer votre culte de cette façon-là. Ce que moi j'ai fait pendant des années et je peux vous dire que ça me sert aujourd'hui. 1 Chronique 5:20, Dieu les exauça, ils s'étaient confiés en lui. Psaume 2:12, heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 32, verset 10, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 84, verset 13. Heureux l'homme qui se confie en lui. Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Vous lirez la suite et vous verrez que c'est pas mal. Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel connaît ceux qui se confient en lui. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Psaume 37, verset 5, verset 5. Mets en lui ta confiance et il agira. 2 Corinthiens 5, 6. Nous sommes toujours pleins de confiance. Et pourtant, je vous assure qu'il traversait des trucs pas faciles. Et pourtant, il dit, nous sommes toujours pleins de confiance. Ésaïe 12, verset 2. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Et je termine avec le psaume 9, verset 11, qu'on a lu en introduction. Ceux qui connaissent ton nom se confie en toi. Et si vous avez une concordance, mais faites-le et commencez vos journées avec ces promesses de l'Écriture. Elles sont écrites pourquoi? Il y en a des centaines. Pourquoi il y en a tant? Mais parce qu'on en a besoin. Pourquoi il y en a tant? Eh bien pour nous inonder de sa grâce. Ceux qui connaissent Dieu ne peuvent pas faire autrement que de se confier en lui. Ésaïe l'a dit, je ne craindrai rien. Je suis plein de confiance. Prenez la concordance et prenez tous les qualificatifs sur pleine, et vous verrez tout ce qui est attribué à des hommes qui apprennent à faire confiance à Dieu. Mes frères et sœurs, l'ennemi, il veut nous décourager, et Dieu, lui, il donne du courage. À qui obéirez-vous? À qui résisterez-vous? Résisterez-vous à Dieu en n'obéissant pas à la prédication, ou résisterez-vous au diable avec une foi ferme, ou résisterez-vous à Dieu en écoutant les suggestions de Satan? Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent parfois résister au diable, mais moi je peux vous dire qu'ils résistent à Dieu, et Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que ne pas croire ce que je vous ai dit ce soir, c'est pas de l'humilité, parce que l'humilité c'est bon. Ne pas croire ces choses, c'est de l'orgueil. Si quelqu'un dit, je termine avec cet exemple, quelqu'un qui dirait « Oh mais moi qui je suis, pour que Dieu m'aime », qu'est-ce que c'est? C'est de l'humilité ou de l'orgueil? Et c'est l'orgueil, parce que Dieu vous aime. Et ne pas croire, qui seriez-vous pour penser que Dieu, à vous, ne vous aime pas? Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil négatif, mais c'est de l'orgueil. Vous le réfléchirez. Je vois que certains ont du mal à croire. Mais croyez-moi, l'humilité, c'est Dieu dit qu'il m'aime, et bien je le crois. C'est ça l'humilité. Dieu, il aime, est-ce qu'il vous aime le Seigneur? Oui, il vous aime. C'est ça l'humilité. Il l'a dit, je le crois, ça me va très bien. Mais prenez une concordance et commencez vos cultes en prenant des fiches comme ça. Lisez, vous allez voir comment vos prières risquent de changer. On relit le psaume 9. Je veux qu'on le relise. J'y tiens parce que c'est une clé, ce verset 11. Et apprenez à réfléchir sur les attributs de Dieu. Quand vous lisez Dieu le Tout-Puissant, réfléchissez, mais achetez-le, le dictionnaire biblique s'il le faut. Mais lisez la définition des attributs de Dieu. Réfléchissez, méditez sur les attributs de Dieu. Vous comprenez? On le relit, psaume 9, verset 11. Moi, ça a été une révélation pour moi. Et pourtant, quand je l'ai lu, c'était dans une période où ça allait bien. Mais ça m'a boosté encore plus. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Voulez-vous connaître davantage le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un ce soir dans ce lieu qui veut connaître davantage le Seigneur Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui se dit, mais Seigneur, mais je ne veux pas être une source de découragement, je veux être une source de bénédiction. Ce soir, je vais rentrer à la maison auprès de mon conjoint, demain auprès de mes collègues, avec mes enfants, avec mes parents, avec les gens que je côtoierai, que je les côtoie une fois dans la vie ou que je les côtoie très régulièrement. Je veux être fortifié. Fortifiez-vous par la puissance du Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur, dit l'apôtre. On ferme les yeux quelques instants. Soyez sérieux, frères et sœurs, le diable il veut vous décourager et il n'a pas fini, croyez-moi, il s'acharnera jusqu'à la fin. Mais Dieu lui, il garde les fidèles et ceux qui connaissent son nom ne pourront pas faire autrement que d'avoir l'immense joie, l'immense grâce que de se confier en lui. Je le répète, si vous ne vous confiez pas en Dieu, c'est que vous ne connaissez pas son nom. Et si à genoux vous suppliez Dieu de se révéler, vous le connaîtrez de mieux en mieux. Vous le connaîtrez de plus en plus. Vous le connaîtrez, vous le verrez agir. Et s'il n'agit pas, ça ne changera rien, parce qu'en vérité, vous lui ferez confiance quand même. Plus vous le connaissez, vous lui faites toujours confiance. Il vous parle, c'est bien. Il ne vous parle pas, eh bien, il y a une raison. Dieu vous aime et il aime ceux qui lui font confiance. Alors répondons consciencieusement à cette prédication. Répondez dans votre cœur. Demandez-lui sa grâce. Apprenez tous ses attributs. Il y en a 150. Il y a de quoi travailler. 150 attributs, mais c'est clair. Ce n'est pas avec deux ou trois attributs qu'on allait parler du caractère de Dieu. On peut parler d'un homme comme ça. On peut dire tel homme, il a deux ou trois qualités. Ça encore, ça c'est possible pour un homme. Mais c'est impossible pour Dieu de le définir avec trois ou quatre attributs. C'est impossible. Quand il est dit qu'il s'appelle fidèle, mais il est fidèle. Alors mon frère, ma sœur, vous qui découvrez l'Évangile, voulez-vous le connaître vraiment? Si vous voulez le connaître, mes frères et sœurs, ne lisez pas la Bible. Méditez-la. Ne lisez pas un texte pour dire, tiens, je connais le texte de Samuel, de David à Siklag quand il a tout perdu, c'était pas marrant. Je veux apprendre, Seigneur. Il n'est jamais dit heureux l'homme qui lit. Il est dit heureux l'homme qui médite. Et si vous méditez sur les attributs de Dieu, et si vous priez, vous allez voir, vous le connaîtrez, et vous vous lèverez le cœur rempli de confiance. Et si à 2 minutes d'inquiétude, vous surmonterez le mal pour le bien, dit je refuse de m'inquiéter parce que Dieu m'a intimé l'ordre de ne m'inquiéter de rien parce qu'il me prendra soin de moi. Ça ne veut pas dire ne vous inquiétez de rien, ben débrouillez-vous, c'est pas grave. Non, ne vous inquiétez de rien, ça veut dire je m'en occupe. Je m'occupe de toi. Est-ce que vous croyez que Dieu va vous s'occuper de vous? Si vous ne le croyez pas, demandez-lui pardon. Parce que je vous assure qu'il agira dans votre vie si vous lui faites confiance. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Recommander son sort, c'est prier. Mettre en lui sa confiance, c'est déposer définitivement. Et là, il agit. C'est normal puisque vous le lui avez dit, donnez. Si vous le gardez, eh bien, si je vous donne une lettre pour que vous l'envoyez à la poste, je vous fais confiance. Si je la garde, eh bien, elle n'ira jamais à la poste. Elle n'ira jamais en tous les cas chez l'interlocuteur. Qui a besoin de cette bénédiction? On reste assis, je ne fais pas d'appel à se lever, à venir sur le devant, mais répondez sérieusement au Seigneur, à votre place. Qui veut mettre vraiment sa confiance à Dieu? Je ne veux pas faire d'appel justement pour que des gens se lèvent. Des fois, c'est nécessaire, mais là, c'est pas important que vous vous leviez ou que vous veniez devant. Ce qui est important, c'est que vous preniez la décision d'utiliser une vraie foi. Et la foi, c'est croire ce que Dieu dit. Le combat de la foi, c'est Dieu qui combat pour vous. Point. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est un beau combat. Mes frères et sœurs, terminons en louant le Seigneur. Que serions-nous sans sa parole? Que serions-nous sans ses exhortations? Que serions-nous sans sa patience? Ça fait combien de fois qu'il nous dit ces choses? Il ne se lasse pas. Voilà. Dieu ne se lasse pas. Vous le croyez que sa patience est notre salut? Eh bien, la prédication de ce soir, c'est la preuve que Dieu est patient. Parce que ce que je vous ai dit, Dieu vous l'a dit déjà 200 fois. Eh bien, voyez, c'est la preuve. C'est une preuve de plus que vous pouvez lui faire confiance. Il ne se lassera pas de vous aider. Voilà une preuve de plus. Notre Père, quelle grâce que de pouvoir t'appeler notre Père. En plus, tu nous as dit que nous pouvons t'appeler Père éternel. Quelle bénédiction! Tu es notre Père pour l'éternité. Mon Dieu, que c'est bon pour nous. Oui, nous avons goûté par ces 2 seuls mots que tu es bon. Seigneur, tu vois cet auditoire, tu savais qui viendrait ce soir, tu sais qui est à 2 doigts peut-être de rétrograder à cause du découragement. Tu veux le relever, tu veux le fortifier, tu veux le guérir, le consoler. Oui, tu es le grand consolateur. Nous ne voulons pas juste le chanter que tu es le consolateur. Nous voulons l'expérimenter dans le deuil et en dehors des deuils. Nous voulons continuellement expérimenter, oui, chacun de tes bienfaits. Oui, nous voulons apprendre à écouter la voix du bon berger. Tu nous conduiras, tu nous dirigeras. Oui, Jésus, nous voulons confesser que la grâce nous accompagnera, car tu es un Dieu de grâce. Bénis cet auditoire, bénis tous ceux qui écouteront cette prédication sur le site et qui ont besoin de cette exhortation, afin que tu puisses faire de chacun de ces croyants de véritables hommes, comme Barnabas qui était un homme d'exhortation. Fais de chacun de nous des hommes et des femmes qui exhortent et qui édifient les autres. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous aurions pu décourager quelqu'un, où nous aurions pu être une pierre d'achoppement. Seigneur, nous croyons que tu feras de nous des vainqueurs et que les vainqueurs sont tous ceux qui se lèveront dans cet état d'esprit de grâce et de foi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.